Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry.
Bonjour Sarah El Haïry et bienvenue sur RTL. Vous avez 31 ans, vous êtes entrée au gouvernement en juillet dernier. Vous êtes franco-marocaine, on va revenir tout à l'heure sur votre parcours. Mais d'abord, le SNU, le Service National Universel, malgré le Covid, vous avez décidé de donner un grand coup d'accélérateur à ce service national. On va passer de... C'était 2000 jeunes en 2019. Alors 2020, ça a été un peu spécial en raison de l'épidémie. Et là, c'est 25 000 jeunes dans tous les départements. C'est pour le mois de juin. Vous êtes prête?
Oui, Madame Ventura, nous sommes prêts parce qu'il y a une envie, parce que pour les auditeurs, peut-être rappeler c'est quoi le SNU en quelques mots. Alors le SNU, on l'appelle maintenant un peu comme ça, mais c'est le Service National Universel. C'est un mois partagé en deux temps, 15 jours. Les premiers 15 jours, on appelle ça un séjour de cohésion. On a des jeunes entre 15 et 17 ans qu'on va réunir dans un internat ou dans un centre de vacances et qui vont faire du sport ensemble, lever le drapeau, chanter la Marseillaise, apprendre les gestes de premier secours. Ils vont vivre ensemble quelque chose de collectif. Ensuite, il y a 15 jours qui va être une mission d'intérêt général. Ça veut dire qu'ils vont s'engager dans une association ou dans une collectivité, mais ils vont apporter... au collectif. Ils vont rejoindre la SPA, aider les banques alimentaires, ou bien rejoindre par exemple la gendarmerie ou les pompiers. Et du coup, ils vont faire sur leur territoire. Et ces deux 15 jours, eh bien, ils se complètent pour permettre de renforcer notre cohésion sociale, notre vivre ensemble, mais surtout, Madame Ventura, créer des rencontres d'une jeunesse qui ne se voit plus, qui ne se croise plus. Un jeune de Nantes, de chez moi, un jeune d'Aurillac ou un jeune de Guéret ou de Paris va avoir l'occasion de vivre quelque chose en commun.
Alors c'est ça, c'est partout en France. Juste quelques questions pratiques et on va revenir sur le SNU. Combien de jeunes sont déjà inscrits là pour le mois de juin? Parce que je rappelle que le premier stage, c'est du 21 juin à 2 juillet.
Exactement, 21 juin à 2 juillet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril, snu.gouv.fr. Et on est quasiment aux 25 000. Il reste quelques jours à peine et quelques places.
D'accord. Et donc c'est sur la base du volontariat?
Tout à fait, pour le moment, sur la base du volontariat. Pas de règles de diplôme, pas de règles de parcours. Il faut juste avoir entre 15 et 17 ans. Qu'on soit en lycée pro, en décrochage, en lycée général, en apprentissage, peu importe, il faut juste avoir entre 15 et 17 ans, être français et aller s'inscrire.
Et ça deviendra obligatoire par la suite.
C'est le projet du président de la République. Dès 2017, nous l'avons dit, la volonté qui est la nôtre, c'est obligatoire pour 800 000 jeunes. Et donc là, toute une génération, toute une classe d'âge.
Et les familles ne payent rien, c'est gratuit.
C'est extrêmement important comme question parce qu'elle revient. Vous savez, quand j'en parle à des jeunes, des fois, ils me disent « Oui, mais combien ça coûte ?» Mais avec beaucoup de gêne, parce qu'il y a d'autres jeunes autour. Non, ça ne coûte rien aux familles. C'est 63 millions d'investissements de l'État. Et c'est l'État qui porte cette politique. C'est peut-être la naissance d'une politique jeunesse structurante pour les 15 prochaines années. Mais ça ne coûte rien aux familles. Depuis le déplacement de la maison, c'est-à-dire on prend en charge le transport depuis la maison jusqu'au centre, la nourriture, l'uniforme, l'hébergement.
Alors, ils ont l'uniforme.
Oui, l'uniforme, un outil qui va permettre de créer, vous savez, ce sentiment d'unité, d'appartenance à un collectif, mais surtout qui va gommer les inégalités sociales de ces jeunes pour qu'ils puissent vivre intensément cette aventure.
Si je dis qu'on est entre le service militaire édulcoré, une colo et une mission d'intérêt général, j'ai juste ou pas tout à fait?
Moi, ça me fait sourire parce qu'en fait, moi, j'aime bien dire, c'est ni la colo, ni l'armée, ni l'école, mais c'est le meilleur des trois. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que oui, il y a des corps en uniforme, donc il y a des militaires, et on garde le meilleur du service militaire de l'époque. C'est quoi? C'est le fait de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. C'est aussi accompagner des jeunes qui ont besoin, par exemple, vous savez, pendant le service militaire, il y avait des tests de santé. Eh bien, il se trouve qu'en 2019, il y avait une jeune fille qui était venue et qui ne voyait pas de loin. Mais en fait, personne s'en était presque rendu compte. Et grâce au
SNU, vous leur faites passer des tests comme ça de la vision pour l'illettrisme.
Exactement. Et on les guide et on les accompagne parce que beaucoup de nos jeunes ont des difficultés et ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier du soutien de notre pays. Et c'est comme ça qu'on l'a juste équipé de lunettes et ça allait mieux après. C'est juste un exemple. Ça, c'est pour la partie service militaire. Alors, sur la partie colo, c'est le temps collectif. C'est l'apprentissage du débat, de la liberté d'expression. C'est tous ces temps-là. Et après, sur l'école, on apprend plein de choses, dont, par exemple, les gestes de premier secours.
Simplement, le président était hier en déplacement dans une unité psychiatrique pour enfants et adolescents, au CHU de Reims. Éventuellement détecter des états légèrement dépressifs, c'est aussi un des objectifs.
Toutes les difficultés, toutes les fêlures, oui, elles seront accompagnées par ce SNU. Et juste peut-être sur un seul point, tous les centres ont une infirmière et des personnels équipés et formés. C'est vraiment des professionnels qui vont encadrer ces enfants, parce que ce sont des enfants, même si ce sont des adolescents bouillonnants, ce sont des enfants dans une année où ils ont beaucoup besoin de liens sociaux, d'échanges et peut-être de refaire des choses ensemble.
Sur le plan sanitaire, est-ce qu'ils vont devoir faire un test PCR avant d'y aller ou...
Alors, vous savez, la question du test PCR va arriver au dernier moment, c'est-à-dire en juin. L'année dernière, on a pu faire toutes les colonies de vacances sans les questions de test PCR. Mais pour assurer vraiment les parents, et je pense que c'est extrêmement important, on a des protocoles extrêmement renforcés, puisqu'on a construit cette édition, cette promotion, en ayant conscience de la Covid. Et donc, on a des centres hyper grands, avec beaucoup d'espace. On a pris des centres avec beaucoup de lits et mis beaucoup moins de jeunes dedans. Enfin, on a pris des précautions.
Est-ce que vous allez pouvoir tester leur adhésion au vaccin ? Parce qu'on voit bien qu'à cet âge-là, ils croient en toutes les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux.
Je crois que ce SNU, il va permettre de beaucoup parler aussi, parce qu'il y a un temps qui s'appelle vraiment le temps d'expression et démocratie interne, donc c'est des temps d'échange. Et vous savez, cette génération-là, elle vit toutes les transitions, mais elle vit aussi tous les dangers d'Internet, les dangers des réseaux sociaux. Et on va les outiller, donc évidemment, sur les questions de vaccins, ça arrivera, je pense, dans le débat, c'est normal, puisque les jeunes, des fois, ils me disent, je me souviens d'échanges où... Mais madame, comment ça va se passer avec le Covid ? Est-ce qu'on doit garder nos masques ? Est-ce qu'on peut avoir aller faire du sport ? Et ça veut dire que ça les touche, ça impacte leur construction. Mmh. Et donc oui, je crois qu'il faudra les lever et peut-être aussi répondre à comment construire une fake news ou une deep fake. Alors c'est quoi une deep fake ? C'est les vidéos qui font des montages et après vous savez plus trop ce que c'est. Et peut-être lever cette défiance parce qu'on est au temps du complotisme pour une partie des infos et donc leur donner les moyens de déconstruire peut-être les informations qu'ils ont, en tout cas de prendre de la distance.
Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes passé de 2000 jeunes au tout début, là vous allez accueillir 25 000. Parmi les 2000 jeunes, ils étaient plutôt issus de familles engagées, on sait qu'un tiers était issu de familles de militaires. 25 000, c'est tout autre chose. Vous vous attendez à être challengé, défié, je ne sais pas, refus de chanter la Marseillaise, demande de menus confessionnels ou des jeunes qui peuvent reparler des caricatures et dire pourquoi ils sont opposés. Vous attendez à ça ?
Oui, madame.
Vous avez prévu
madame
ça ?
Madame, bien sûr, mais pour plusieurs raisons. Quand vous avez entre 15 et 17 ans, vous êtes adolescent. Vous êtes au moment où vous bousculez peut-être l'autre, vous avez des convictions extrêmement fermées ou extrêmement fermes. Vous venez chercher des fois, ou frotter, vous savez, l'éducation de vos parents. Mais on a une jeunesse qui a besoin de repères. On a une jeunesse qui a besoin de cadres. Et c'est pour ça qu'on a des corps en uniforme, des éducateurs, des animateurs, des médiateurs et des enseignants. Et finalement, l'idée du SNU, c'est de reposer un cadre, reposer des règles, faire ensemble. Et donc, si on est demain challengé, par exemple, sur nos symboles, sur la Marseillaise, sur le drapeau, sur les questions de religion, eh bien... ils seront accompagnés. Il ne faudra pas fermer la porte, au contraire. Mais 25 000 jeunes, c'est quoi ? C'est une photographie de notre pays. Mmh. C'est une photographie d'une génération. Et c'est pour ça que je suis partie aussi chercher des jeunes qui n'étaient peut-être pas présents au premier. Vous avez raison, au premier SNU. On est partie dans les quartiers populaires, aller chercher des jeunes. Je suis partie dans des maisons, des MFR, des maisons familiales rurales.
Oui, vous faites un tour de France.
Volontairement pour aller chercher des jeunesses différentes, pour qu'elles vivent et qu'elles apprennent à casser les stéréotypes qu'elles ont les unes des autres.
Je sais que ce ne sont pas des questions qui vous font peur, la laïcité, la religion. Vous avez été confronté à plus d'une centaine de jeunes à Poitiers. C'était peu après la mort de Samuel Paty, dans le cadre d'une rencontre organisée par la Fédération des centres sociaux. Vous avez été prise à partie sur le sujet des discriminations. 130 jeunes. Vous avez dit, mon devoir ce jour-là, en tant que ministre de la République, c'est de leur expliquer en quoi leurs propos et leurs demandes n'étaient pas adaptés à notre pacte républicain. La République, ce n'est pas à la carte. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où vous étiez prise à partie ?
Que la France est une chance, que j'en ai conscience, mais que pour une partie de notre jeunesse, elle ne le sait plus. Et qu'il fallait lui refaire vivre la France, la République, se rendre compte que, mais bon sang, on a un des plus beaux pays au monde et que cette colère, elle doit être apaisée. Et comment on apaise de la colère ? Eh bien, en regardant l'autre, en étant confronté à l'autre. C'est pour ça que le SNU, ça va être ce temps de rencontre où on va sortir de chez soi, où on va voir des jeunes qui... Pourquoi un jeune va chanter cette Marseillaise au point d'avoir, vous savez, de l'émotion et un autre... Eh bien, va la siffler.
Ce jour-là, vous vous êtes mise debout et vous avez chanté la Marseillaise.
Oui.
Tout le monde ne vous a pas suivi.
Non. Mais je l'ai chanté parce que c'est notre dénominateur commun. Parce que je crois que nous avons le devoir, dans une période où notre pays, il est très bousculé, où il y a des puissances étrangères qui essayent de nous fragiliser, en tout cas de fragiliser notre pacte social, qui bouscule notre laïcité, eh bien de rappeler que chez nous, dans notre pays, la laïcité, c'est pas contre les religions, c'est pas quelque chose de violent, c'est quelque chose qui nous permet, eh bien finalement, que chacun trouve sa place et chacun de nos jeunes a sa place dans notre pays. Par contre, il doit respecter le pacte collectif.
Pour vous, l'attitude de ces jeunes, j'imagine, est à milieu de votre rapport à la France. Je rappelle, vous êtes franco-marocaine, vous êtes née à Romorantin dans le Loir-et-Cher, mais vous avez aussi vécu au Maroc. Oui. Vos parents sont marocains. Et vous avez vécu un drame aussi à l'adolescence à Casablanca, Sarah El Haïry.
C'est juste. Il se trouve que mes deux parents sont nés au Maroc, que je suis née dans le Loir-et-Cher, et c'est vrai que c'est un département que du coup je partage avec Marc Fesneau et Jacqueline Gourault, qui sont également au gouvernement.
Gouvernement.
C'est une anecdote du mouvement démocrate, du MoDem. C'est une anecdote interne. Mais il se trouve que, oui, quand je vivais au Maroc, il y a eu des attentats qui ont bousculé Casablanca, et un des lieux qui a subi un attentat était le restaurant de mes parents. Et c'était un jeune. C'était un jeune qui est venu perdre la vie en voulant prendre la vie d'autres. Et j'ai compris, ça nous a bousculé, enfin on est revenu, on est rentré, parce que du coup quand tu te sens plus en sécurité, tu as besoin de rentrer à la maison, et la maison c'est la France. Et bien j'ai compris que ce combat-là était nécessaire, qu'il fallait absolument jamais laisser l'espace à la haine ou à la colère. Par contre, pour ne pas laisser d'espace, il faut des repères, il faut un cadre, il faut du commun. Et il faut se lever, chanter une Marseillaise quand elle est bousculée. Et c'est pour ça que ce service national universel, d'une certaine manière, c'est recréer de la rencontre, accompagner, mais de la rencontre.
Sarah El Haïry, la marque Evian, l'eau d'Evian, qui appartient à Danone, a publié un tweet mardi. Retweetez si vous avez déjà bu un litre d'Evian aujourd'hui. Tous les médecins le recommandent. Il faut boire un litre à un litre et demi par jour. Ça paraît assez banal dit comme ça. Sauf que mardi, c'était le début du ramadan, synonyme de jeûne. Pas de boisson, pas de nourriture. Et Evian s'est fait accuser de racisme sur les réseaux sociaux. Et le pire, c'est que Evian s'est excusé. On marche sur la tête?
Non, mais c'est totalement scandaleux. Enfin, je veux dire, il faut juste revenir un peu. Et reprendre un peu de hauteur. Une entreprise qui vend de l'eau, qui fait de la pub pour de l'eau, s'excuse. Mais c'est absolument dingue. C'est dingue, et en même temps, ça dit quelque chose de notre pays. Twitter n'est pas la vraie vie. Twitter n'est pas la vraie pensée des Français. Il se trouve que sur Twitter, il y a une sorte de sphère d'islamo-gauchistes qui volontairement poussent à la repentance, à la victimisation. Et on réussit à faire douter Evian. C'est ça qui est dingue. Et moi, franchement, j'en suis triste, en fait, de ces excuses. Parce que, oui, dans notre pays, on fait de la publicité. Et quand on est une entreprise d'eau, eh bien oui, on vend de l'eau. Et personne n'a besoin de se sentir offensé. C'est bien ça, le sujet. Sauf que, ils se sont excusés. Et c'est bien dommage.
Merci pour vos propos, Sarah El Haïry. Bonne continuation avec le SNU.
La France est une chance, j'en ai conscience. Toute notre jeunesse ne le sait pas. Voilà pourquoi la ministre chargée de la jeunesse et de l'engagement relance le service national universel. Vous avez entre 15 et 17 ans. Ça se passe sur le SNU, le site snu.gouv.fr. Et ils seront donc 25 000 cette année. Merci beaucoup. Vous m'avez presque donné envie de refaire mon service. Donc...